textes que vous allez entendre sont l'enregistrement en studio d'une lecture publique qui a été donnée à l'Espace Culture de l'Université Lille 1 dans le cadre du cycle de conférences à propos du nucléaire en avril 2013. À travers cette lecture, qui s'est déroulée pendant la pause du midi, nous voulions expérimenter une forme légère de proposition culturelle et peut-être toucher ainsi d'autres publics. Les textes choisis parlent chacun à leur façon du quotidien du nucléaire, quotidien des habitants de Tchernobyl, avec la supplication « Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse » de Svetlana Alexievitch, aux éditions Lattès, paru en 1999. Quotidien des intérimaires du nucléaire en France, avec la centrale d'Elisabeth Filol, Paris aux éditions Paul en 2010. Quotidien des régions dévastées autour de Fukushima, avec Fukushima, récit d'un désastre, de Michael Ferrier, paru dans la collection L'Infini chez Gallimard en 2012. Comme un contrepoint littéraire aux conférences qui avaient abordé les aspects historiques, politiques, techniques, médicaux du sujet, la parole est ici donnée par le témoignage, la fiction, le récit, à des femmes et des hommes touchés, atteints au cœur de leur vie, par cette réalité du nucléaire qui s'est imposée à eux. La lecture publique s'est déroulée devant une installation vidéo de Amar Bourras. L'artiste algérien est revenu 50 ans après sur le lieu des premiers essais nucléaires français au Sahara. Ce dialogue texte-image nous rappelle que les accidents nucléaires transforment de façon quasi définitive des territoires entiers en zones interdites. Avec les voix de Michel Hojdé, Marc Mail, Dominique H, Jacques Lescuyer et Jean-Philippe Cassard.
La beauté de la région fait sa fragilité. Golfe aux étroits, allongés et profonds, estuaires sinueux en forme dense ou de fer à cheval, ici, comprimés dans le fourreau des rives, les tsunamis montent jusqu'à des hauteurs incroyables. J'ai vu des films, j'ai vu des images. J'ai été, comme tout un chacun, submergé par le déluge des images. Aucune d'elles ne m'avait préparé à cette confrontation incroyable avec le réel. La plupart des images ne connaissent ni le temps, ni la géographie. Elles ne disent rien de cette cruauté. Quand dans notre camionnette de location chargée de vivres, de médicaments et de vêtements, nous entrons progressivement dans la région, c'est d'abord une impression trompeuse de normalité. Les rizières bien ordonnées, les charmants villages blottis dans les anneaux rocheux de la côte, les grandes forêts solitaires remplies du chant des oiseaux, tout évoque le calme et la sérénité. Et soudain, passé la courbe d'un virage, au détour de la route, le désastre nous prend tout à coup et il n'y a plus rien. Ni arbres, ni maisons, ni jardins, ni routes, ni immeubles, ni collines. Une masse de débris innombrables ondule à perte de vue. Les montagnes sont écrasées, les fleuves bus, la terre n'est plus qu'une immense tache. Soudain, toutes les distances sont réduites et en même temps indéfiniment distendues. C'est une immense coulée brune sur laquelle plane une persistante odeur de pâte de soja fermentée, un cauchemar marron. Tout à coup, nous ne sommes plus au Japon, nous ne sommes plus nulle part d'ailleurs, car d'aucun pays ce paysage ne saurait porter le nom. C'est un tapis de débris, des kilomètres et des kilomètres de gravats, tout est aplati, aplani, rasé, arasé. De cette plaine de déchets, plus rien ne semble pouvoir s'élever. Le mouvement vertical a été éliminé de la terre, réduite à sa plus simple surface, sa plus plate expression. Nausée. Les hommes sont terrassés, les villes pulvérisées. Un murmure d'incrédulité se lève à l'intérieur de l'âme. Partout, des fils, des poteaux électriques emportés et brisés, des tuyaux enchevêtrés d'algues, étranges racines qui semblent venir du futur lui-même. Le paysage n'a plus rien d'humain ni de naturel, plus rien d'ancien ni de nouveau. Tout s'est aboli sous la vague qui a mué toute une partie de la région en une sorte de mangrove post-industrielle. Les voies ferrées ont été tordues par la puissance de l'eau. Plus d'un mois après le séisme, des trains sont toujours plantés au milieu de la voie quand ils ne sont pas encastrés dans un mur. Il y a aussi des empilements de cars, des bateaux laquillant l'air sur les routes et des voitures éparpillées dans la boue, certaines triturées, torturées, tôles froissées, vitres brisées, d'autres délicatement déposées sur un toit avec une sorte de grâce. Ici et là, quelques enseignes maculées et mutilées, désormais indéchiffrables.
Il ne faut pas croire qu'on ne nous dit rien pourtant. Bien au contraire. À la télévision, dans la presse écrite, sur les ondes et sur Internet, on est abreuvé d'informations. C'est un flot de données aussi déferlante que le tsunami. Pour le commun des mortels, elles ne veulent évidemment rien dire, mais même les spécialistes peinent à leur donner un sens. Dans certains villages du Tohoku, j'ai vu des panneaux entiers remplis de ces chiffres énigmatiques, strictement indéchiffrables. S'assemblant sous ces nouveaux grands chênes, qui n'ont plus ni couronne druidique, ni majesté dodonéenne, les paysans viennent les voir et tâchent d'y lire les symptômes de leur mal ou les signes annonciateurs de leur destin. Étrange diagnostic, qui tente plus à masquer les conséquences qu'à discerner les défaillances et ne propose jamais de remède. La vérité, c'est que ces chiffres ne veulent de toute façon plus rien dire. Livrés sans explication, dans des unités de mesure fluctuantes et truffées de contradictions, d'approximations et de supputations, ils signalent seulement que nous sommes entrés dans l'incommensurable, dans l'incalculable. Pas seulement parce que les instruments sont cassés ou défectueux, ou parce que les chiffres atteignent des niveaux où ils ne peuvent plus être enregistrés sans détruire la machine, même qui est censée les mesurer. Mais aussi parce qu'une telle profusion de chiffres sert à enrober dans une masse d'informations qui réussissent le tour de force d'être à la fois nombreuses et insuffisantes, la réalité d'une situation qui est de jour en jour plus inquiétante. Telle quelle, ce ne sont rien d'autre que des sortes de hiéroglyphes hittites, mayas ou égyptiens, ces hiéroglyphes qui, comme les décrivait Chateaubriand, semblaient être un sceau mis sur les lèvres du désert et qui répondaient de leur éternelle discrétion. Face à ces chiffres, comme on ne sait plus quoi faire, on fait n'importe quoi. Le 14 mars, le ministère de la Santé et du Travail augmente la dose maximale autorisée pour les travailleurs de la centrale de 100 millisieverts pour 5 ans à 250 millisieverts par an. C'est vrai. Quoi ? À quoi bon des normes si ce n'est pour les transgresser? En avril, il fera encore mieux. Il élèvera la dose maximale pour les enfants à 20 millisieverts par an, qui est tout simplement le taux maximum en France et pour la Commission internationale de production radiologique auquel on peut exposer les travailleurs du nucléaire. Le gouvernement fera ensuite marche arrière sous la pression des parents et de plusieurs associations. Mais c'est dire le degré de cynisme que l'on peut atteindre pour défendre à tout prix la filière. Considérer des gamins sans défense exactement au même niveau que les spécialistes du nucléaire les plus exposés. Il fallait le faire. Ils l'ont fait. Thank you.
J'entends si souvent parler de la mort que je ne vais plus aux enterrements. Avez-vous entendu des conversations d'enfants sur la mort ? En sixième, ils se demandent si cela fait peur ou non. Il n'y a pas si longtemps, à leur âge, ils voulaient savoir comment naissent les bébés. Maintenant, ils s'inquiètent de savoir ce qui se passerait après une guerre atomique. Ils n'aiment plus les œuvres classiques. Je leur récite du Pouchkine et ils me regardent avec des yeux froids, détachés. Un autre monde les entoure. Ils lisent de la science-fiction. Cela les entraîne dans un monde différent, où l'homme se détache de la terre, manipule le temps. Ils ne peuvent pas avoir peur de la mort de la même manière que les adultes, que moi par exemple. Elle les excite comme quelque chose de fantastique. Je réfléchis à cela. La mort tout autour oblige à penser beaucoup. J'enseigne la littérature russe à des enfants qui ne ressemblent pas à ceux qui fréquentaient ma classe il y a 10 ans. Ils vont continuellement à des enterrements. On enterre aussi des maisons et des arbres. Lorsqu'on les met en rang, s'ils restent debout 15 ou 20 minutes, ils s'évanouissent, saignent du nez. On ne peut ni les étonner ni les rendre heureux. Ils sont toujours somnolents, fatigués. Ils sont pâles et même gris. Ils ne jouent pas, ne s'amusent pas. Et s'ils se bagarrent ou brisent une vitre sans le faire exprès, les professeurs sont même contents. Ils ne les grondent pas parce que ces enfants ne sont pas comme les autres. Et ils grandissent si lentement. Si je leur demande de répéter quelque chose pendant le cours, ils n'en sont pas capables. Parfois, je dis juste une phrase et leur demande de la répéter. Impossible, ils ne la retiennent pas. Alors je pense beaucoup. Comme si je dessinais avec de l'eau sur une vitre. Je suis seule à savoir ce que représente mon esquisse. Personne ne le devine, ne l'imagine. Notre vie tourne autour de Tchernobyl.
J'ai un carnet spécial dans lequel je note des conversations, des rumeurs, des blagues. C'est ce qu'il y a de plus intéressant et c'est intemporel. Non, c'est vrai, qu'est-ce qui est resté de la Grèce ancienne ? Les mythes de l'Antiquité grecque. Alors, voici mon bloc. Quelques conversations. Depuis 3 mois, on dit à la radio que la situation se stabilise, la situation se stabilise, la situation se... Des instructeurs du comité central sont arrivés. Leur itinéraire ? Aller-retour en voiture de l'hôtel au comité du parti. Ils étudient la situation dans les collections des journaux locaux. Ils ont rapporté de Minsk des sacs entiers de sandwichs. Ils font leur thé avec de l'eau minérale qu'ils ont également apportée de la capitale. C'est une employée de leur hôtel qui m'a raconté ça. Les gens ne prêtent pas foi aux journaux, à la télé, à la radio. Ils cherchent l'information dans le comportement des chefs. C'est cela qui les guide au mieux. Le conte le plus populaire de la zone. Le meilleur remède contre le stronium et le césium est la vodka Stolichnaya. Que faire de mon enfant ? Ben oui, moi j'ai envie de le prendre dans mes bras et de m'enfuir, mais j'ai la carte du parti, je peux pas.
Badge magnétique et code d'accès personnel. 2 chiffres, accès restreint. 4 chiffres, accès en zone contrôlée. Un autre que moi, ce matin, s'est présenté au poste de garde, a franchi les contrôles, l'habillage et a rejoint les gars de mon équipe pour finir le travail. À présent, il se repose en essayant de ne pas y penser ou de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Une règle valable pour toutes. Le risque permanent. Statistiques de surexposition. Et pour lui-même, l'exception qui confirme la règle, ou la pensée magique, ça n'arrivera pas. Il est jeune, j'imagine, en bonne forme physique, et son corps lui répond. Tant qu'il n'aura pas fait l'expérience contraire, il s'en tiendra là. La relève, comme en première ligne à la sortie des tranchées. Celui qui tombe est remplacé immédiatement, dans la discipline. et les gestes appris et répétés jusqu'à l'automatisme. Il y a des initiales pour ça. D-A-T-R. Directement affecté aux travaux sous rayonnement. Avec un plafond annuel et un quota d'irradiation qui est le même pour tous. Simplement, certains en matière d'exposition sont plus chanceux que d'autres. Et ceux-là traversent l'année sans épuiser leur quota et font la jonction avec l'année suivante. Tandis que d'autres sont dans le rouge dès le mois de mai et il faut encore tenir. Juillet, août et septembre, qui sont des mois chauds et sous haute tension, parce qu'au fil des chantiers, la fatigue s'accumule et le risque augmente, par manque d'efficacité ou de vigilance, de recevoir la dose de trop, celle qui va vous mettre hors jeu jusqu'à la saison prochaine. Les quelques millisieverts de capital qu'il vous reste, les voir fondre comme neige au soleil, ça devient une obsession. On ne pense qu'à ça, au réveil, au vestiaire, les yeux rivés sur le dosimètre pendant l'intervention, jusqu'à s'en prendre à la réglementation qui a diminué de moitié le quota, en oubliant ce que ça signifie à long terme. Chair à neutrons, viande à rem, on double l'effectif pour les 3 semaines que dure un arrêt de tranche. Le rem, c'est l'ancienne unité, dans l'ancien système. Aujourd'hui, le sievert. Ce que chacun vient vendre, c'est ça. 20 millisieverts. La dose maximale d'irradiation autorisée sur 12 mois glissants. Et les corps peuvent s'empiler en première ligne. Il semble que la relève soit inépuisable.
Avec leurs masques, les liquidateurs de Tchernobyl avaient l'air de chiens humains, la face recouverte d'une muselière de cuir. Les vêtements kaki, lestés de plomb, les énormes lunettes noires et les moufles épaisses leur donnaient un air sombre et un peu rustre. Ceux de Fukushima, dans leur belle tenue blanche parcourue de lignes bleues, ressemblent à des elfes en comparaison. Gants bleus azur, visière transparente et casque jaune vif complètent le tableau. Ils flottent comme des flocons sur le désastre, silhouette blanche parée pour toutes les intempéries. La réalité est bien différente de ce que ces images veulent faire croire. C'est de la mise en scène, me dit Monsieur K. En vérité, les liquidateurs sont harnachés comme des bêtes. Dès qu'on sort, on est complètement recouvert, scotché et masqué, appareil respiratoire sur le visage, avec filtre à cartouches de charbon. Il fait chaud, poisseux même. On respire difficilement. Les yeux sont rivés sur les dosimètres. Les bottes de cuir couinent à chaque pas. De temps en temps, notamment aux alentours des flaques, on les enrobe de sacs plastiques fixés par du ruban adhésif. C'est comme si on marchait dans un sac de pommes de terre ou un sac poubelle. On glisse, on dérape, on se sent patate soi-même, vaguement déchet. Leur boulot. Réparer le système de refroidissement, des pompes de la taille d'une voiture et stabiliser les piscines. Ils tirent des câbles pour rétablir l'électricité, dégagent des débris encombrant les sites, aspergent les réacteurs à la lance à eau, répare, colmate, remplace, entretienne. Serviteurs plus que collaborateurs, ils vont où on leur dit d'aller. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Ils liquident. Rodation de 30 minutes à 1 heure en fonction du taux de radiation. Le tout dans la succession des répliques violentes, régulières. Toute la journée, c'est la douche des radiations. Mais le pire est pour ceux qui vont à l'intérieur des bâtiments, où la radioactivité atteint des sommets. Tout le monde a peur de s'approcher des réacteurs, mais il faut bien y aller quand même. Monsieur K arrête son récit quelques minutes pour allumer une cigarette. La pénombre commence à s'installer dans le vieux café du Hainaut, qui n'est éclairé que par un plafonnier défraîchi et quelques appliques laissant filtrer une lumière jaunâtre. Il commande un verre d'eau. Ses yeux brillent d'une étrange lueur lorsqu'il évoque les réacteurs. Un réacteur, c'est immense. En surface, on ne voit que des structures délabrées, tripes d'acier à l'air libre. Mais en dessous, ce sont des cavernes de câbles, des enchevêtrements de tuyaux soufflés par les explosions et tordus par les flammes, une jungle de ferrailles et de débris. Des galeries sans fin, encombrées de fils et de cordes, le tout noyé dans de l'eau de mer, l'odeur du sel et de la sueur, la peur. Il y a des trous remplis d'eau. Il faut faire attention où on met les pieds. Il y a des câbles qui pendent comme des lianes. Il faut constamment lever la tête, prendre garde vers le bas, être aux aguets sur les côtés. La mobilité est réduite, la vision parfois quasi nulle. De temps en temps, les masques glissent et tombent, et là, c'est déjà trop tard. On les remet, on continue. Les débris radioactifs sont partout. L'eau, le plus souvent, pas de lumière, une sorte de lueur crépusculaire, jaunâtre. On étouffe. Les lampes sont les yeux, les jauges les oreilles. Le bruit des respirations est amplifié par les masques. On entend son cœur qui bat distinctement.
Il se tient debout au bord de la piscine, vide. Il se tient debout, en combinaison étanche, homme ventilé et masque à gaz sous le homme, incapable de franchir le pas qui lui permettrait d'agripper la rampe, de pivoter, puis de poser son bottillon droit en caoutchouc blanc et semelle crantée sur le premier barreau de l'échelle, en prenant bien garde de ne pas s'enrouler ou entortiller le cordon d'alimentation, une fausse manœuvre qui couperait net l'arrivée d'air au plus mauvais moment, une fois atteint le fond de la piscine. Pour l'instant, en cas d'urgence ou sur un coup de tête, il peut encore agir, arracher le homme et le masque et respirer librement. Mais 15 mètres plus bas, ce qu'un homme sans tenue complète de protection est surtout libre de respirer, ce sont les gaz et aérosols radioactifs libérés par les parois, tritium, cobalt, césium. Il entend la voix derrière lui, à travers le homme, qui lui donne l'ordre, pour la deuxième fois, de descendre. Il ne réagit pas. Il se tient debout, tétanisé, sans rumination, sans conflit intérieur. Devant lui, la piscine, le trou béant d'un sarcophage en béton vide. Sous le matériel de manutention peint en jaune, pont roulant, treuil et mât de levage, non plus la surface troublante et lisse de l'eau animée par une lumière intérieure, non plus cette eau qui vous tend les bras, dont le charme par la seule magie de sa couleur repousse les hésitations et les craintes, mais une fosse vide et grise dans son cuvelage d'étanchéité. Il ne peut pas descendre. Il sait qu'il ne pourra pas le faire. Il ne le sait pas à la manière d'un bipède doué de paroles et raisonnable, mais d'instinct. C'est un engagement massif de tout le corps contre la volonté, si tant est que la volonté, depuis qu'il est entré ici, ait eu son mot à dire. La voix est celle identifiée du chef d'équipe qui en appelle à la raison. Les gars de la première vague ont eu leur dose. Maintenant, c'est à eux de jouer. Lui, Bernard, et ses collègues qui attendent le début de l'intervention, habillés comme lui en tenue mururoa, et qui, tant qu'à faire, quitte à devoir y aller, voudraient en être déjà débarrassés et s'impatientent. Un homme le double, suivi d'un deuxième, d'un troisième, lentement, avec précaution, ils commencent à descendre.
Je ne sais pas de quoi parler. De la mort ou de l'amour? C'est peut-être pareil. De quoi? De quoi parler? 7 heures. À 7 heures, on m'a fait savoir qu'il était à l'hôpital. Nombre de médecins, d'infirmières et surtout d'aides-soignantes de cet hôpital tomberaient malades. Plus tard, mourraient. Mais à cette époque-là, personne ne le savait. À 10 heures du matin, l'opérateur Chichenok rendit l'âme. Il fut le premier. Premier jour. Nous avons appris plus tard que le deuxième, Valera Kodemchuk, était resté sous les décombres. On n'était pas parvenu à le dégager. Son corps a été noyé dans le béton. Mais nous ne savions pas encore qu'ils étaient tous les premiers. Dans la foule, quelqu'un entendit qu'on allait les emmener à Moscou. Le lendemain, à mon arrivée, ils étaient déjà séparés, chacun dans sa chambre. À gauche, à droite et à l'étage, en dessous, on avait dégagé tout le monde. Il ne restait plus un seul malade. Personne autour d'eux. Ils changeaient. Chaque jour, je rencontrais un être différent. Les brûlures remontaient à la surface, dans la bouche, sur la langue, les joues. D'abord, ce ne furent que de petits chancres. Puis, ils s'élargirent. La muqueuse se décollait par couches, en pellicule blanche. La couleur du corps, bleu, rouge, gris, brun. Et tout cela m'appartient. Mais tout cela est tellement aimé. On peut pas le raconter. On peut pas l'écrire. Le pronostic du mal aigu des rayons est de 14 jours. L'homme meurt en 14 jours. Le service des autres chambres pressurisées où se trouvaient nos gars était assuré par des soldats. Les aides-soignants de l'hôpital avaient refusé. Ils exigeaient des habits de protection. Les soldats portaient les bassins, lavaient le plancher, changeaient les draps. Ils faisaient tout. Je voulais faire tout ce qu'il fallait pour lui. Si j'avais pu tenir physiquement, je serais resté 24 heures sur 24 près de lui. Je regrettais chaque minute perdue. Je regrettais chaque minute. Tant que je restais avec lui, rien ne se passait. Mais dès que je m'absentais, on le photographiait. Il n'avait aucun vêtement, il couchait nu, juste recouvert d'un drap léger que je changeais tous les jours. Le soir, il était tout couvert de sang. Lorsque je le soulevais, des morceaux de peau restaient collés sur mes mains. Aucune des infirmières ne pouvait s'approcher de lui, le toucher. S'il fallait quelque chose, elle m'appelait. Et l'on prenait des photos. Il disait que c'était pour la science. Je l'ai accompagné jusqu'au cercueil. Sous mes yeux, dans son grand uniforme, on l'a glissé dans le sac en plastique que l'on a noué. Et ce sac, on l'a placé dans un cercueil en bois, et ce cercueil, on l'a couvert d'un autre sac en plastique transparent mais épais comme une toile cirée. Et on l'a mis dans un cercueil en zinc. Tout cela, seule la casquette restait dehors.
Pour qui a vu Fukushima à ce moment-là, il est évident que c'est une zone de guerre. L'homo n'est pas trop fort. Non seulement parce que l'armée a bel et bien été déployée en masse dans les zones sinistrées et dans les environs de la centrale, mais surtout parce que tout un chacun, quel que soit son âge, son sexe, sa condition sociale, son rang ou sa mission, soldat, infirmières, pompiers, journalistes, se trouvent soudain dans une zone de combat. C'est la guerre. Les familles des troupes d'autodéfense japonaises qui meurent à Fukushima peuvent recevoir 90 millions de yens. Ce sont les montants qui sont attribués aux soldats envoyés en Irak ou à ceux qui patrouillent au large de la Somalie, dans les zones infestées de pirates. On parle des opérations. Terme à la fois chirurgical et militaire, et de la nécessaire reconquête de ces réacteurs, qui se fera au terme d'une guerre de tranchées. Le 2 avril, pour la première fois de son histoire, 15 des 145 membres de la Chemical Biological Incident Response Force ont été déployés hors du territoire américain. C'est un corps des marines spécialement entraîné pour des situations d'urgence biologique, chimique ou nucléaire. 32 véhicules, des tonnes de matériel transportés dans pas moins de 7 avions, un laboratoire mobile spécialisé dans la détection des substances toxiques et la décontamination. Le plus vieux, le sergent McDundell, a seulement 40 ans. C'est un Texan qui se veut rassurant. Nous sommes ici pour aider et conseiller les militaires japonais et servir de force de réaction rapide si quelque chose de vraiment, vraiment mauvais arrive. Tous les indicateurs nous disent que ce ne sera pas le cas, mais il est préférable qu'on soit sur place et qu'on n'ait pas besoin de nous, plutôt qu'on ait besoin de nous et que nous ne soyons pas là. Mais rien qu'à la façon dont il le dit, on comprend que quelque chose de vraiment, vraiment mauvais, really, really bad, est déjà arrivé.
Loïc, générateur 2 par décision du chef d'équipe. Il entre en premier. À l'intérieur des boîtes à eau, le débit de dose est élevé. On nous a préparé le terrain, on nous a mis du plomb, mais ça crache quand même. Il prend la plaque. Une vis. Deux vis, ça rentre. À la troisième, ça bloque. La quatrième, c'est pareil. Il sort. Il est en nage sous le home. Il dit « Ça ne rentre pas. J'ai eu mon compte. Vous finissez sans moi. » Et il les plante là. De mémoire de chef d'équipe, un gars qui quitte le navire au beau milieu de son intervention, on ne voit pas ça souvent. Ses collègues en colère, à la limite je les comprends, ils étaient trois à devoir y aller, trois pour une dose collective à répartir à peu près équitablement. Si l'un d'entre eux fait faux bond, ça change tout. Deux au lieu de trois, c'est plus pareil. L'information circule que je reçois d'abord comme telle, comme une information. Et puis, brutalement, comme une rumeur dont je suis en droit de me méfier. Les faits. Et seulement, dans un second temps, sur le personnage principal, un nom. Les faits. Dès le sas de sortie du bâtiment réacteur, mais son nom à lui, seulement à la sortie du vestiaire chaud, dans la file d'attente. Pour tous ceux qui n'ont pas de visage à mettre dessus, qu'ils sortent ainsi de l'anonymat ne change rien. Ils en parlent, on parle de ça partout, dans les vestiaires, à l'entrée du parking, jusque dans les rangs de la comptine. Je sais ce qu'ils ont à dire, mais je ne veux pas l'entendre, parce que ce que j'ai à en dire moi, c'est autre chose, vu que ce gars-là, je le connais bien. Sur le chemin de la gare jusqu'au dernier moment, j'attends qu'ils réagissent, en vain. On en restera là. Fin de mission à Civaux. Pour lui, direction Saint-Laurent, les tours réfrigérantes. Le détartrage des tours, il n'y a pas pire. Dans la chaleur du mois d'août, au milieu des amibes et des légionnelles et des produits chlorés qu'on manipule, c'est du sale boulot. Au bout de 2 semaines, les gars n'aspirent plus qu'à une chose, travailler à l'intérieur, entrer en zone contrôlée. Quand on leur délivre les autorisations d'accès, ils vivent ça comme une promotion. D'accord, ils vont prendre les doses, mais ça ne se voit pas et le travail est propre.
À Kyoto, on ne fait pratiquement rien, que l'amour. On n'a rien dit d'un tremblement de terre quand on ne parle pas aussi de son effet érotique. Faire l'amour, quand tout tremble autour de vous. Personne jamais n'en parle et pourtant, la leçon du séisme, avant d'être morale, idéologique, sociologique ou politique, enfin bref, tout ce qu'on voudra, est d'abord et avant tout physique. Votre corps soudain ne répond plus comme avant. Vos 5 sens se mettent ou se remettent à vibrer. Comme jamais, vous retrouvez des joies insaisissables. Vous découvrez des plaisirs insoupçonnés. Il faut le dire. L'immense trépidation qui s'est emparée du monde, à sa charge mortelle, mais aussi une vertu érotique. Pornographie des plaques, tous ces blocs qui se chevauchent, ces cavités qui se réveillent, ces failles qui s'ouvrent et se déplacent en appel d'autres, à l'intérieur de votre corps lui-même, alvéoles, ventricules, oreillettes, érotisme souterrain qui remonte soudain en surface, souverain. Avec June, depuis le 11 mars, nous faisons l'amour merveilleusement, entrelacés, emboîtés, embouchés l'un sur l'autre et l'un dans l'autre. Nos bras, nos mains, nos bouches, nos jambes ne nous suffisent plus. J'y vois la traduction interne, physiologique du grand séisme. Ce n'est pas seulement que le tremblement de terre, en frappant avec fureur, a rappelé à chacun la brièveté de la vie, sa fragilité de cristal et la nécessité d'en jouir le plus vite et le plus complètement possible. Ce n'est pas seulement que, face au désastre, chaque être humain se sent soudain renvoyé à sa solitude fondamentale, à sa condition mortelle et au sens qu'il entend donner à sa vie. Mais il y a autre chose de plus puissant, de plus ancien et de plus profond, qui dépasse et emporte les liaisons de passage comme les stratégies matrimoniales. Le séisme révèle les gens, non seulement dans leurs attitudes morales, de courage ou de dédain, de cynisme ou de compassion, de pleutrerie, mais aussi d'une manière toute physique, physiologique. Le séisme révèle les corps, leurs charges secrètes, leurs faiblesses cachées et leur potentiel déroulant. Certains se ratatinent, se renfrognent, ils entrent dans la longue nuit d'eux-mêmes, se replient ou se racornissent, se réfugient dans leurs secrets. D'autres, au contraire, soudain comme liane déployée, lumière des cuisses, éclat du visage, indifférent au danger et même extrayant du péril lui-même une fraîcheur insolente, aplomb parfait. C'est comme si chaque corps, d'avoir tant tremblé, avait soudain retrouvé sa position juste, sa place exacte sur la terre. Dans la douceur de mars, mille nuits passent en une seule nuit, et ceci, c'est l'étrange alliance de Kyoto et du séisme qui nous l'a donné. Pendant ce temps, plus au nord, les gens meurent. Thank you.